vie,
aimer ensemble,
donner sa vie,
donner ensemble,
choisir la vie,
choisir ensemble,
aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi,
payer ensemble,
risquer de soi,
risquer ensemble,
chercher en soi,
chercher ensemble,
payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde.
Merci d'être à l'écoute de la fréquence Marielle, fréquence bleue, fréquence maternelle, auditeur, auditrice de Radio Maria. Bienvenue à notre rendez-vous psychologique avec Papa André Tandala. C'est bien l'émission Voici mon problème. Bonjour Papa André.
Bonjour Maman Jeanne et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Alors, le grand thème santé mentale et inadaptation scolaire des enfants. Et le sous-thème, c'est l'importance du milieu social.
Voilà. Alors, la question principale sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui est celle de savoir le rôle et l'importance du milieu social pour le développement intellectuel et psychosocial de l'enfant et par ricochet son influence sur l'adaptation scolaire. Dans le développement psychosocial, le monde relationnel de l'enfant va crescendo et connaît quatre phases principales. La première phase commence dès la naissance et va jusque vers l'âge de 18 mois, soit un an et demi. Pendant cette phase, le monde relationnel de l'enfant est essentiellement constitué de la figure maternelle. Autrement dit, pendant les 18 premiers mois de vie, la mère est la figure centrale avec laquelle l'enfant interagit et sur laquelle il modèle sa façon d'être et de voir les choses. Si cette relation est globalement positive, l'enfant est censé acquérir la confiance en lui-même et dans les autres. Cela se traduira plus tard par l'optimisme dans la vie et dans les relations interpersonnelles. La deuxième phase va de l'âge de 18 mois jusqu'à 3 ans environ. Dans cette phase, à côté de la mère, une autre figure prend de l'importance pour la vie affective de l'enfant, c'est la figure paternelle. Autrement dit, pendant cette période, ou mieux à partir de cette période, le père cesse d'être pour l'enfant un simple élément du décor familier. Elle devient le compagnon privilégié de la mère aimée et désirée. En quelque sorte, on dirait que l'enfant se lie affectivement au père par le biais de la mère. Il est psychologiquement prêt à passer de la relation privilégiée et exclusive avec la mère à la relation privilégiée inclusive avec le père et la mère. On dit alors qu'il passe du duo exclusif mère-enfant à la triade inclusive père-mère-enfant. Si cette triade est globalement équilibrée, l'enfant développe alors deux qualités essentielles, l'autonomie et la volonté. L'autonomie est à comprendre ici au sens de liberté intérieure. Autrement, au lieu de l'autonomie, l'enfant pourrait développer la honte et le doute sur lui-même et sur les autres. De 3 à 6 ans, c'est la troisième étape. De manière générale, le monde relationnel de l'enfant est alors constitué de la famille de base. La fratrie peut-être, les oncles, les tantes, les voisins les plus proches, etc. Avec le développement physique et la maîtrise de la motricité, l'enfant devient considérablement capable d'explorer son milieu. Cela aura comme conséquence l'acquisition de l'esprit d'initiative et de créativité. Mais si dans l'exploration de son monde, l'enfant rencontre plus d'hostilité que d'encouragement ou de soutien, alors il pourra développer ce qu'on appelle le sens de culpabilité. La quatrième étape commence à environ 7 ans et va jusqu'à l'âge de 13 ans environ. Pendant cette période, l'enfant est censé s'attacher à ses camarades plutôt qu'à ses parents. Il s'agit des voisins de l'avenue où on habite, des camarades de classe ou des paroisses, etc., etc. Ce sont ces camarades qui ont désormais une grande importance sur son développement psychosocial. Parmi les attitudes et comportements typiques de cet âge, donc de la troisième enfance, on peut noter les suivants. Grande tendance à jouer et à passer plus de temps avec les camarades qu'avec les parents. Un déficit de l'estime de soi qui va s'exprimer par une forte tendance à se comparer aux autres, notamment les camarades, pour savoir qui est plus doué que les autres et dans quel domaine. Besoin de se mettre en valeur par des actions appréciées dans son milieu, notamment par les personnes adultes qui ont de l'importance pour lui, les parents, l'enseignant, les curés, je sais pas, les responsables des groupes de la paroisse tels que les groupes des acolytes, les cas, etc., etc. Pour surmonter cette période avec succès, l'enfant a besoin non pas de répression, mais des directives claires et précises dans ses agissements. C'est ainsi qu'il se sentira protégé. Il a également besoin de se sentir valorisé et compris. Besoin de participer à tout ce qui se fait et se dit autour de lui. Faute de quoi, il aura le sentiment d'être inférieur, impuissant, inutile et inadapté. D'où, à plus ou moins long terme, la peur d'interagir activement avec les autres. Tout ce que nous venons de dire concerne l'enfance, c'est-à-dire le temps qui va de la naissance jusqu'à l'apparition de la puberté. Alors, qu'en est-il de l'adolescence? Eh bien, à l'adolescence, les relations sociales qui concourent au développement psychosocial sont celles que l'individu a avec le groupe de pairs, donc ses amis, et les attitudes intérieures qu'il cultive vis-à-vis des figures qui sont considérées comme des modèles au sein de la société. Il peut s'agir de stars de sport, du cinéma, de la musique, ou plutôt des leaders politiques, des figures scientifiques, des héros ou des grandes figures religieuses telles que les saints, la Vierge Marie, etc. Donc, le monde social de l'adolescent est fait de réalité, notamment avec des amis, mais aussi des rêveries ou de l'imagination qui se nourrit des figures emblématiques au sein de la société. Cela fait qu'il n'est pas rare de trouver des adolescents qui vivent plus de rêveries que de la réalité. En outre, avec la croissance biologique, l'adolescent découvre autrement son corps en même temps que sa sexualité. Cela fait qu'il change d'attitude envers lui-même et envers les autres. Tout cela provoque ce qu'on appelle la crise d'identité, c'est-à-dire la tendance inconsciente à se définir, à trouver son identité. Cette autodéfinition se traduit par une remise en question de l'autorité parentale, une relativisation de certaines vérités, certaines valeurs qui étaient jusque-là sacrées, inattaquables. Mais en réalité, le jeune individu est encore loin d'être capable d'assumer les conséquences de cette quête légitime de liberté et de responsabilité, justement à cause de son immaturité. Pour que cette crise d'identité ne soit pas une catastrophe pour le jeune lui-même et un tourment pour le milieu social, ce dernier doit soutenir l'adolescent dans son effort d'autodéfinition. En fait, le développement de l'enfant qui s'est étalé sur les 12 premières années environ doit maintenant se synthétiser pour lui procurer, avec l'aide de la famille et de l'école, un sens d'identité du moi et une autodéfinition. Mais lorsque le milieu éducatif n'a pas bien joué son rôle, soit à cause de répression, du laisser-aller, eh bien, l'adolescent pourrait développer ce qu'on appelle la confusion de l'identité. Le jeune ne se reconnaît pas lui-même et ne sait pas ce qu'il représente pour les autres. Il s'est recherché sans trouver sa propre identité. Il vit sans idéal, sans modèle de vie, mais tout cela reste inconscient. Bref, de la naissance à l'adolescence, l'individu acquiert progressivement des capacités ou des compétences censées lui faciliter l'adaptation sociale et scolaire. Tout cela dans ses interactions concrètes avec le milieu social. Quelles sont ces compétences? Eh bien, la confiance, l'autonomie, la créativité, l'industriosité et l'autodéfinition. Par contre, la méfiance, le doute, le sens de culpabilité, le sens d'infériorité, la confusion de l'identité sont autant de signes de vulnérabilité psychologique et donc des facteurs d'inadaptation sociale et scolaire. Question. Concrètement, que doivent faire les parents ou les éducateurs pour favoriser au maximum les chances de l'adaptation scolaire de leurs enfants? Sans être exhaustif, nous allons vous donner ici quelques attitudes et comportements qui favorisent l'inadaptation scolaire ou l'adaptation scolaire et même sociale des enfants, attitudes et comportements rendus possibles par un milieu familial globalement sain, sain de bonne santé et accueillant pour l'enfant. Premièrement, la curiosité. La curiosité n'est pas à comprendre ici dans le sens de la tendance à l'intrusion dans la vie privée d'autrui, ce qui serait un peu malsain, mais dans le sens du désir d'apprendre des choses nouvelles. Signe d'une bonne intelligence, la curiosité est la tendance à découvrir, à s'intéresser à ce qui est nouveau. Un enfant normal, en bonne santé, s'intéresse à tout ce qui est dans son entourage. Il veut voir, il veut entendre, toucher et même manipuler, jouer avec. Pour plus le cerveau se développe et plus grande devient sa curiosité. Cela est particulièrement intéressant dans la troisième phase du développement psychosocial dont nous avons parlé tantôt, de 3 à 6 ans. L'enfant devient un touche-à-tout très embêtant. Il veut laver la vaisselle à la place de maman. Il veut tripoter les choses à la cuisine. Ses petites mains, ses petits doigts se glissent même dans des prises électriques. Les parents s'énervent et deviennent intolérants parce qu'ils ne savent pas à quel point tout est merveilleux pour leur petit génie. Alors, s'ils ne gèrent pas la curiosité de l'enfant avec tolérance, en lui laissant quand même un espace de liberté et de jeu, la curiosité est malheureusement étouffée. Elle s'est mue en sens de culpabilité. À chaque fois qu'il ose apprendre en découvrant son milieu, l'enfant reçoit une gifle des mamans. On crie systématiquement sur lui avec fureur. Et finalement, l'enfant conclut que lui est fautif en tout et par conséquent, à trop chercher à apprendre du nouveau, on s'attire la foudre de la société. Les enfants qui ne sont pas curieux à l'école auraient vraiment du mal dans l'apprentissage. Cela serait probablement dû au fait que leur esprit d'initiative et de créativité aurait été étouffé par la famille lorsqu'ils avaient encore 3-6 ans. Deuxièmement, la camaraderie et le jeu. Savoir être avec les autres qui ne sont pas de sa famille, cela est une sociabilité qui s'apprend dès la troisième enfance, des 6 ou 7 ans jusqu'à 12-13 ans. Il faut déplorer le fait qu'il n'est pas rare de trouver des parents hyper protecteurs par rapport à leurs enfants de cet âge, pour des raisons qui sont peut-être valables, soutenables, mais c'est déplorable. Pas d'amitié, pas de camaraderie, pas question de jouer avec les enfants d'autrui. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que les interactions avec les pères sont nécessaires pour le développement psychosocial de votre enfant. Savez-vous que c'est généralement pendant la troisième enfance que les enfants se bagarrent le plus entre eux? Et savez-vous pourquoi cela? En règle générale, les bagarres récurrentes entre les enfants de cet âge ne sont jamais de la méchanceté ou le fait d'une psychopathologie. En général, non. Comme nous le disions plus haut, les enfants de cet âge aiment trop se comparer les uns aux autres. Pour les enfants, les chamailleries et les bagarres sont un langage, ou plutôt une lutte de hiérarchie. Qui est plus apte, plus grand, plus fort, plus doué? Et ce qui devrait nous étonner par-dessus tout, c'est que ces bagarres ne signent jamais la fin de l'amitié. Bien au contraire, on dirait même qu'elles les renforcent. Ils se bagarrent d'autant plus qu'ils s'entendent. Et beaucoup de parents frôlent le ridicule en voulant s'ingérer dans les affaires de bagarres d'enfants. Votre enfant pour qui vous êtes allé vous quereller, le voilà qui joue avec son ami, qui l'a à peine giflé et lui a ravi ses jouets. Par ailleurs, il faut souligner que pour un enfant, vivre c'est jouer. Et le jeu, on va le dire très brièvement, le jeu a quatre fonctions principales pour un enfant. Première fonction, fonction récréative pour se détendre et s'amuser. Deuxième fonction, la fonction de socialisation. Par le jeu, l'enfant apprend l'esprit d'équipe. Il apprend la coopérativité, la collaboration, le respect des normes sociales, le sens du mérite et de fierté, le goût de l'effort, l'acceptation de ses limites et le désir de se dépasser. Il apprend la loyauté, le respect de l'autre, l'acceptation de son échec et la reconnaissance du succès d'autrui. Etc. Donc, jouer, c'est apprendre à se socialiser pour un enfant. Troisième fonction, la fonction du développement intellectuel. L'enfant apprend mieux en jouant. Quatrième fonction, enfin, la fonction thérapeutique. Le jeu est pour l'enfant un puissant moyen d'autothérapie psychologique. Canalisation et maîtrise de son agressivité, réalisation symbolique de ses désirs irréalisables d'être comme un adulte. Eh bien, quand l'enfant joue au père, à la mère, au médecin, au soldat, etc., il est en train de sortir de cette frustration-là de ne pas être comme un adulte. Il se réalise un peu symboliquement. Il faut donc savoir qu'un enfant de cet âge qui sait se battre avec ses pères sans rompre l'amitié est un enfant psychologiquement normal qui veut seulement s'affirmer et trouver sa place au sein du groupe de ses amis. Les enfants trop protégés par les parents au point d'être incapables de se chamailler normalement avec leur père sont des enfants qui peuvent avoir des problèmes d'interaction sociale. Car ils auraient toujours l'impression d'être acculés et malmenés par les autres au point de développer soit l'agressivité, soit la timidité. Et par conséquent, ce sont des enfants prédisposés à l'inadaptation sociale et scolaire. Troisièmement, ce qu'on appelle la spontanéité. En psychologie, la spontanéité désigne la capacité à la cohérence et à la franchise dans l'expression de ses besoins, ses désirs, ses sentiments, ses émotions. On est capable de s'exprimer et de demander de l'aide sans tomber dans une sorte de pathologie, n'est-ce pas, consistant à croire que tout problème doit être résolu et tout besoin satisfait ici et maintenant et se comporter en conséquence, n'est-ce pas. On doit avoir la liberté intérieure de dire ce qu'on pense et ce qu'on éprouve, tout en gardant la lucidité d'être réaliste dans ce qu'on peut attendre du milieu où on se trouve. Une telle liberté intérieure s'acquiert pendant l'enfance. La confiance et l'autonomie vécues, expérimentées au sein de la famille, se répercuteront dans toutes les interactions ultérieures, notamment dans les relations avec des amis, avec son enseignant, avec les autorités scolaires. D'où vient que certains enfants, par exemple, soient littéralement terrorisés rien que par la présence de l'enseignant? Pourquoi certains enfants ont du mal à exprimer leurs difficultés lorsqu'ils ne comprennent pas les explications en classe? Et pourquoi certains enfants ont tendance à se comporter partout où ils se trouvent, comme si tout leur était permis, sans retenue, sans manière? En tout état de cause, en psychologie, la socialisation s'appelle l'acquisition ou la formation du surmoi. Eh bien, le surmoi, c'est quoi? C'est cette partie de notre psychisme qui nous permet d'intérioriser les normes sociales, de nous y conformer sans devoir renier à nos besoins légitimes. La formation du surmoi est rendue possible par l'autorité paternelle. J'ai bien dit l'autorité paternelle, a priori non pas par l'autorité maternelle. En fait, la relation fusionnelle que nous avons eue avec notre mère depuis notre conception, eh bien, cette relation nous prédispose au narcissisme, ça veut dire à l'égoïsme. À l'origine, quand nous sommes bébés, la mère est vue comme une partie de nous-mêmes qui nous rend tout puissants. Voilà pourquoi cette relation ne nous aide pas à nous décentrer au profit d'une relation équilibrée avec les autres. La mère n'a pas la vocation d'être la première référence dans l'acquisition du sens moral. En revanche, c'est le père qui, grâce à une autorité aimante, nous oblige de nous détacher psychologiquement de notre mère et d'accepter de nous conformer aux attentes de la société. Le père doit nous apprendre, doit apprendre à l'enfant le sens de l'interdit, le sens du sacrifice, le sens du mérite, le sens du devoir, l'amour du travail bien fait, le respect du bien commun, le respect de la parole donnée, etc., etc. Le père joue pleinement son rôle lorsqu'il aide l'enfant à incorporer la loi suivante. Dans la société, tout n'est pas permis et il faut mériter le succès ainsi que l'estime et le respect des autres. C'est cela qu'on appelle l'amour conditionnel du père. Pour qu'elle ne soit pas un point insupportable pour l'enfant, cet amour conditionnel du père doit être contrebalancé par l'amour dit inconditionnel de la mère. Ainsi, soutenu par l'unique amour parental avec ses deux faces, l'amour inconditionnel de la mère et l'amour conditionnel du père, eh bien, l'enfant trouvera un équilibre dans le respect des normes sociales et ses propres intérêts, entre les devoirs et les droits. Mais lorsque la mère a un caractère plus fort que celui du père, ça peut arriver, si bien qu'elle fait le père en assumant de fait le rôle de l'autorité principale de la famille, il se crée dans le psychisme de l'enfant un traumatisme pouvant s'exprimer par des comportements d'inadaptation sociale. Excusez-moi, des comportements d'inadaptation sociale, l'égocentrisme, la timidité, l'agressivité et même à long terme, l'incapacité d'assumer sa sexualité par une vie d'adulte responsable, c'est-à-dire le refus inconscient d'être parent responsable au service de sa famille. Quatrièmement, enfin, ce que je vais vous proposer, quatrièmement, c'est l'ordre. L'enfant comme l'adolescent n'est naturellement pas porté à l'ordre. On dit qu'il règne un chaos dans le psychisme de l'enfant, si bien qu'il peut vouloir une chose et son contraire en même temps. C'est aux parents de lui inculquer la notion de l'ordre. Chaque chose a sa place et un temps pour chaque chose. Autrement, ce serait la porte ouverte à l'indiscipline. Tout doit commencer à partir de l'âge de 2 ou 3 ans. respecter les heures du repas et surtout apprendre à l'enfant à manger sans une autre activité parallèle, telle que jouer. Il mange en jouant, il mange en regardant la télévision, il mange en maniant le téléphone, il court ça et là, non. Respecter l'heure du coucher et du réveil. Respecter l'heure de faire les devoirs et de jouer. Apprendre à l'enfant petit à petit à arranger ses affaires dans la chambre, à séparer les linges sales des linges propres, à ne pas faire du bruit quand papa ou maman se reposent ou qu'ils parlent au téléphone, à se tenir convenablement à table, à se tenir convenablement pendant la prière, à la maison, à l'église, ainsi de suite. Bref, apprendre à son enfant à bien faire les choses régulières, c'est le prédisposer à une adaptation sociale et scolaire. Pour finir, s'il vous plaît, je voudrais formuler une recommandation aux parents, aux éducateurs. Évitez à tout prix la maltraitance des enfants, qu'il s'agisse de la maltraitance physique ou psychologique, les injures, des qualificatifs négatifs, des surnoms moqueurs, des gifles, des privations, n'est-ce pas, prolongées en termes de nourriture, etc., etc. Des recherches ont prouvé que les enfants maltraités peuvent, à plus ou moins long terme, développer, outre le retard mental, des psychopathologies plus ou moins graves, troubles d'anxiété, troubles de comportement, déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles de personnalité antisociale, troubles de personnalité paranoïaque, troubles de personnalité borderline, donc des états limites, troubles de sexualité ou de l'identité sexuelle, troubles de stress de post-traumatique, troubles de l'humeur dépressive, etc., etc. Bref, tout ce qu'il faut pour favoriser l'inadaptation scolaire. En conclusion, le milieu familial est nécessaire et indispensable pour la santé mentale de l'enfant et son adaptation scolaire. Lorsque la famille répond convenablement à sa vocation, qui est celle d'être le lieu où l'on apprend à vivre et à aimer, à servir et à pardonner, à croire et à prier, où chacun se tient convenablement à sa place et joue la partition qui lui revient, alors l'enfant est prédisposé à mener une vie psychologiquement équilibrée. Sa socialisation et sa scolarisation sont favorisées et garanties. L'apprentissage et le rendement scolaire de mon enfant dépendent aussi de la qualité des relations interpersonnelles au sein de ma famille. Lorsque mon enfant échoue à l'école, je dois m'interroger sur l'équilibre psychosocial de ma famille avant de jeter la pierre à l'enseignant ou à l'enfant lui-même. Nous vous remercions.
Merci beaucoup, Papa André et Tandala, pour cet exposé. Jadis va nous aider avec un chant. On se retrouve juste après.
Bien-aimé, que j'ai péché. Oui, j'ai péché.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de moi. Christ, prends pitié, Christ, prends pitié de moi.
J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est ma faute.
C'est ma faute.
C'est ma très grande faute.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de moi. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi.
Merci beaucoup à Radis pour ces chants. 081-99-66-098, c'est l'émission Voici mon problème. Nous parlons de la santé mentale et inadaptation scolaire des enfants. Papa André a été vraiment très lent dans son exposé. On a eu le temps de comprendre les sous-thèmes, l'importance du milieu social. 081-99-66-098. On va donc commencer déjà à recevoir vos questions. Nous avons le message de Maître Guy Chueka, membre de la commission Justice et Paix dans la paroisse Bienheureuse à Noirite, dans le diocèse de Goma. Bonjour Radio Maria, je vous suis depuis Goma RDC. Mes préoccupations sont les suivantes. La première, est-ce que le problème ou les crises psychologiques et mentales sont curatives chez les enfants comme chez les adultes? Si oui, dans quelle mesure ou par quel mécanisme on peut les guérir définitivement?
Merci beaucoup. Oui, il y a ce qu'on appelle la psychanalyse ou la psychothérapie des enfants. Il y a des psychothérapeutes, donc des psychologues cliniciens qui se sont spécialisés uniquement dans la suivi, dans la prise en charge psychologique des enfants. Donc si un enfant présente des troubles, ça peut être des troubles de comportement ou que ça devient récurrent, j'ai toujours dit le premier réflexe des parents être d'aller voir un médecin, un pédiatre.
Un pédiatre.
Voilà. Et que le pédiatre fasse un diagnostic qui confirme ou infirme la présence d'une affection médicale. Si c'est une affection médicale, le pédiatre peut faire son travail. Mais quand cela ne tienne, ils peuvent aussi consulter le psychologue pour estimer et voir s'il y a aussi un problème d'ordre psychologique. Donc, les problèmes psychiques des enfants sont guérissables. Ça dépend de la manière dont on s'y prend.
Si on s'y prend en retard.
Oui, ça devient plus. Oui, c'est ça. Il faut le faire le plus tôt possible.
Okay. Quels sont les remèdes naturels contre les crises majeures de la santé mentale dans les milieux populaires de guerre et des conflits armés, comme c'est le cas chez nous à l'est de la RDC?
Très bonne question d'ordre vraiment pratique. Eh bien, ça dépend du degré de l'affection, donc du trouble. Il y a de ces troubles si sévères qu'il faut aller à l'hôpital, donc en psychiatrie. Quand l'individu a subi des traumatismes, si bien qu'il commence à perdre ce qu'on appelle le contact avec la réalité, donc il ne se retrouve plus, il a perdu ses esprits, ou bien il est tellement déprimé que c'est impossible de vivre, eh bien il faut aller à l'hôpital. Mais le problème, c'est que les vrais malades psychiques, donc ceux qui ont des psychoses, des troubles assez sévères, ne se reconnaissent pas malades. Parfois, il faut faire intervenir. La force est de l'homme. Oui, j'en ai l'expérience. Parfois, il faut la police, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils cassent tout, ils s'échappent avec tout le monde. Ils voient des sorciers partout. Il est donc persécuté par toute la famille. Ça ne tient pas. Il faut faire intervenir la police pour aller en psychiatrie.
Merci à Monsieur Guy Chueka qui nous a écrit depuis Goma, 081-99-66-098. Nous prenons un autre message. Question de savoir quelle est la base de l'éducation de l'enfant. Quelle est la base de l'éducation de l'enfant? C'est le cadre éducateur Saint-Stanis dans la commune de Limité. Il est cadre éducateur. Il pose la question de savoir quelle est la base de l'éducation de l'enfant.
Très bien, nous l'avons, sans citer le mot cadre de l'éducation. La base, c'est cette triade qui doit être aimante, la triade de mère, père, enfant. Vous avez compris? C'est au sein de cette triade-là que l'enfant doit se sentir aimé, valorisé, et à partir de là, poser une bonne base pour un équilibre psychique et donc une socialisation, on va dire, harmonieuse et équilibrée. Donc c'est la famille, une famille qui s'aime. Je ne dis pas une famille qui a extrêmement de moyens, non, l'amour d'abord. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent alors qu'ils sont qui souffrent psychologiquement, alors qu'ils sont entourés. Oui. Ils sont dans l'or. Voilà. Voilà. Ils pleurent, ils fument, ils boivent. Pourquoi ? Parce que ben, il n'y a pas d'amour. Mmh. Vous avez compris. Donc, oui. C'est l'amour, la famille, papa.
Quels sont les conseils pour maintenir une bonne santé mentale ?
Pour maintenir une bonne santé mentale.
Quelques conseils.
Ben, il faut essayer de vivre ses valeurs. Vivez vos valeurs. Et je me souviens, maman Régis, peut-être vous en avez encore la mémoire. Je me souviens, un jour, on avait parlé ici, il y a de cela quelques temps quand même. C'est pas facile de s'en souvenir. On avait traité d'un thème sur l'autothérapie. On peut faire, il y a des moyens de faire une sorte de diagnostic personnel. Hein. Ça dépend. Il y a de ces problèmes qui ne sont pas aussi graves que ça. On peut faire cultiver l'introspection, hein, la vie des valeurs, votre vie des prix, ça vous aide à vous maintenir dans une bonne santé mentale. Donc, soignez les relations au sein de la famille, dans votre milieu de travail. Ce que vous faites, faites-le à la lumière de vos valeurs et cela peut vous aider à vous maintenir dans une bonne santé mentale.
On ne peut pas faire recours à un sport, aux aliments, peut-être.
Oui, tout ça. Oui, une bonne hygiène de vie. Oui. Faire du sport sans tomber dans l'excès. Si vous avez déjà 45 ans, 50 ans, ne croyez pas que vous allez vous mettre à courir tous les jours comme si vous aviez encore 18 ans. Non. Suivez le conseil de votre médecin et respectez votre âge aussi. Donc, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour la santé mentale.
Comment identifier les gens avec des problèmes de santé mentale?
Grosso modo, c'est des gens qui ne fonctionnent pas dans les secteurs, je veux dire, qui ne fonctionnent pas convenablement dans les secteurs importants de leur vie, notamment les relations intrafamiliales, les relations avec les amis, les relations dans le milieu du travail, même leur religiosité peut refléter l'équilibre ou le déséquilibre dont ils souffrent. Vous avez compris? Donc, la manière de fonctionner dans les grands secteurs, c'est une manière qui reflète notre perception de nous-mêmes et des autres. Si c'est une perception biaisée, eh bien, nous aurons des relations pas très positives avec les autres. L'image que nous avons de nous-mêmes, entre autres.
Voilà, Monsieur Stanis, qui a posé la question sur la base de l'éducation de l'enfant, dit « Je suis satisfait de cette belle réponse ».
Merci beaucoup.
081 99 66 0 98, nous continuons. À vous recevoir, on va prendre cet audio. On l'écoute.
Bonjour, papa André Tandala. Merci beaucoup pour cette très belle émission. À vous entendre parler, notamment selon votre exposé, il semble que la famille, cela veut dire le milieu, joue une importance capitale sur la réussite scolaire de l'enfant. Alors, comment expliquer nous autres qui étions élevés dans un milieu où régnaient les injustices, les injures et toutes sortes de mauvaises choses concernant notre personne? Comment expliquer que nous étions aussi brillants que ça à l'école? Aussi longtemps que le fardeau premier qui devait nous permettre à briller dans cette école n'était pas bien réuni. Comment expliquer?
Merci pour votre question.
Alors, étant donné que la famille est un facteur de l'adaptation scolaire, si la famille fonctionne bien, les relations au sein de la famille sont bonnes, les chances de l'adaptation scolaire pour l'enfant sont réelles. Alors comment expliquer donc que des enfants qui sont maltraités, qui vivent des situations familiales difficiles, réussissent à l'école? Très bonne question. Ouais. Je me souviens, si vous permettez, une expérience, un témoignage. J'ai été reçu dans une famille ici à Matete, du côté Matete, c'est vous, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Alors, mon hôte me présente, je vois un enfant, chez le voisin un enfant. J'étais là pendant plus de 2 heures, mais presque tout le temps, l'enfant là ne faisait que nettoyer des assiettes. Mouillé, un petit garçon d'environ 7, 8 ans. On me dit non, il a déjà 10 ans. Je dis, mais comment expliquer qu'il ne fait que laver la vaisselle, Alors on m'a raconté l'histoire d'une, c'est un enfant qui est maltraité. La discrétion oblige. De toute façon, c'était un enfant qui était dans une situation de maltraitance vraiment atroce. Et on me fait savoir que cet enfant-là, il fait le ménage avant d'aller à l'école. Et à la fin de l'année, s'il obtient un échec, c'est 65%. Vous avez compris? Donc, un enfant maltraité, mais qui brille. Ce que je veux dire, ceci. Pour tout commencer, ce n'est pas seulement la famille qui est le facteur déterminant de la réussite, mais c'est un des facteurs. Alors, si vous êtes dans une situation compliquée et que vous réussissez, qu'est-ce que vous ne feriez pas si la situation était heureuse? Donc vous seriez encore plus brillant, c'est ça. Oui. Donc, on vous malmène, mais vous réussissez. C'est que vous êtes fort. Oui. Il n'y a pas à s'étonner. C'est que vous êtes fort. Oui. Si on vous donnait plus de chances, vous iriez encore plus loin. Oui. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre.
Voilà. Quels sont les signes qu'une santé mentale se dégrade?
Parce que je dis les fonctionnements dans les secteurs importants de la vie. Si vous avez tout récurrentement des problèmes avec les collègues, en famille, ça ne va pas. Donc vous avez une mauvaise perception de la vie, une mauvaise perception de vous-même. Ça veut dire que vous avez des problèmes, ça peut être ça. Mais il y a de ces problèmes en temps où vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Ça veut dire des psychoses tellement graves que vous confondez la nuit avec le jour. Ça peut arriver. Des psychoses comme ça, une schizophrénie. C'est clair que si vous êtes déprimé, c'est clair que la santé mentale aussi. Si vous lavez, ça devient un problème. Manger, un problème. Sortir, faire un tour, tout devient un problème. C'est que la santé mentale est en temps. Ça dépend.
081-99-66-098, Papa Ngalangala de la paroisse Notre-Dame à Bandundouville nous écrit: bonjour papa, Etandala et maman au plateau. Papa, que faire maintenant si on vit dans un milieu où la vie sociale est foutue? Il y a des quartiers ou des communes où les gens se comportent comme de fous. Alors papa, comment faire avec nos enfants? Merci pour ces meilleurs enseignements, papa, que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. C'est vrai que il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre seul dans sa chambre. Il y a des problèmes structurels. Hein, et on a le droit d'être aidé par les autorités compétentes pour plus de sécurité, plus de paix dans nos quartiers, sur nos avenues. C'est un peu ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faites le meilleur que vous pouvez, le mieux que vous pouvez faire en parlant avec vos amis, en leur montrant au sein de la famille combien vos valeurs sont importantes. Par-delà ce qu'ils peuvent apprendre sur la rue, sur les réseaux sociaux, dites-leur la vérité que nous, on croit en ceci, notre vie, c'est cela. Nos valeurs, c'est la tolérance, l'accueil, la prière, etc. Que les enfants entendent de votre bouche, vous parents, que non, vous tenez à cela. Oui. Parce que tôt ou tard, même s'ils vont se laisser influencer par l'éducation, la rue, tôt ou tard, ils peuvent se rappeler ce que disait papa un jour.
On écoute Joseph Desmarie.
Bonjour, maman Régine. Bonjour, cher papa. Et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Hein? L'importance du milieu social chez un enfant. Je m'interroge. Est-ce que l'enfant est-il libre dans son milieu social ou plutôt il doit être contraint à accomplir coûte que coûte ce que son milieu social lui propose, c'est-à-dire ce que les adultes lui proposent? Est-ce que la société est-elle une contrainte pour la liberté individuelle de l'enfant ou plutôt une condition de sa réalisation? Voici un casus. Quelques parents hyperprotecteurs cherchant leur enfant de 12 ans qu'ils ont amené à l'église. Retournant sur leur chemin, ils trouvèrent leur enfant non pas dans le groupe de Kizito Anwarit, les enfants de son âge, ou dans le groupe d'Acolita, mais ils trouvèrent malheureusement leur enfant dans le groupe des professeurs en théologie, des docteurs des droits canoniques et des exégètes. Alors, première question, est-ce qu'à 12 ans, votre fils devrait-il se retrouver parmi ces vieillards-là intello de son milieu pour discuter avec eux, ou plutôt parmi ses camarades? D'abord, je m'arrête là, cher papa.
Merci à Joseph Desmarie.
Je vais dire un mot avec beaucoup de bienveillance, de courtoisie, même si ça peut paraître un peu dur. Mais mon frère, je vais vous dire, améliorez-vous, n'ayez pas ce qu'on appelle du côté de la psychologie une idée fixe. C'est une question qui revient tout le temps, tout le temps. Vouloir psychologiser Jésus. Pour tout commencer, vous définissez les parents de Jésus comme étant hyper protecteurs. Un parent hyper protecteur ne peut pas laisser son enfant pendant 2 heures sans savoir où se trouve l'enfant. Ça, c'est déjà faux. Les parents de Jésus ont passé toute la journée sans savoir où était Jésus, croyant qu'ils étaient, il était avec des parents, donc des frères et des sœurs, parce qu'on voyageait en groupe. Donc, déjà, la base de votre raisonnement est fausse. Les parents de Jésus, ce n'étaient pas des parents hyper protecteurs. 2. Jésus se trouve au milieu des grands professeurs à l'église. Est-ce que ça t'étonne du moment qu'il est Dieu? La fois, il y a de cela, je crois, 2-3 semaines, je vous ai mis en garde sur le fait que vous ne devez pas dissocier Jésus, homme de Jésus, Dieu. Non, c'est une seule personne avec deux natures, pleinement homme et pleinement Dieu. Moi, si je veux psychologiser Jésus, je ne peux pas mettre de côté la spiritualité de Jésus, ça veut dire sa divinité. Mais vous, vous y revenez toujours. Ça s'appelle avoir une idée fixe, qu'on appelle aussi un délire. Excusez-moi. Merci beaucoup.
À quel âge précisément la santé se dégrade? Puisque nous parlons des 12 ans, voilà. Il y a une question qui tombe, à quel âge?
Non, ne vous en faites. On en a parlé la fois dernière. Eh bien, même les tout petits enfants peuvent avoir des problèmes psychologiques sérieux. Même la dépression.
Nous parlons de quelle tranche d'âge, petit enfant? 2 ans, 3 ans?
Même quelques jours, l'enfant
de
peut, oui, peut avoir des angoisses. Il y a des enfants, il y a ce qu'on appelle l'abandonnisme. C'est une peur morbide qu'éprouve certains enfants déjà d'un certain âge. La peur d'être abandonné. Pourquoi? Parce que de par le passé, ils ont vécu un moment d'abandon. Écoute, les enfants qui naissent dans des situations difficiles, où la maman doit être prise en charge pour des soins intensifs, et l'enfant reste seul. Vous savez ce qui se passe dans la tête de ces enfants? C'est terrible, un enfant comme ça. Et ça peut laisser des séquelles. Si l'amour maternel ne vient pas réparer, ça peut laisser. Donc, dès la naissance, l'enfant est déjà confronté à la vie, à la dureté de la vie.
Okay. Alors, Stanis nous dit, est-ce que pendant que l'enfant est au sein de la mère, dans le ventre de la maman, est-ce qu'on peut revoir une éducation? Si oui, comment? Donc, est-ce qu'on peut déjà commencer l'éducation de l'enfant dès le sein maternel?
Oui, bien sûr, indirectement, même indirectement. Moi, j'ai un témoignage, hein, si vous permettez. Un professeur d'université, sa femme est tombée enceinte, et après, je crois, à partir de 3-4 mois, tous les matins à 5 heures, il caressait le ventre de bébé, enfin de maman, et parlait à bébé. Bébé, je t'aime, mon enfant, je t'adore. Et un jour, il devait aller à mission de service. Et la femme qui dit, depuis que tu es parti, chaque jour à 5 heures, bébé bouge terriblement dans l'eau. Ce qui n'était pas dans ses habitudes. Pourquoi? Il est habitué à ces contacts-là. Donc, même dans le sein maternel, l'enfant interagit avec l'environnement. Donc, l'éducation devrait commencer même avant la conception. Parce que l'éducation, on a dit que la base de l'éducation, c'est l'amour, n'est-ce pas? Oui. L'amour entre les deux parents. Et cet amour ne doit pas jaillir seulement quand un bébé a déjà 9 mois. Non. Bien avant que l'enfant ne soit conçu, eh bien, il faut que les parents s'aiment déjà et qu'ils parlent de leur projet des enfants qu'ils vont faire. Ça aide, et c'est une très bonne question.
081-99-66-098, nous tendons vers la fin de notre émission. Voici mon problème, vous avez encore des questions. Il y a des enregistrements, voilà, donc, qui sont en cours. Nous allons donc vous recevoir au 081-99-66-098. On va prendre ces messages. Bonjour, Papa André. Bonjour, Maman Régine. Merci pour l'émission. J'aimerais juste savoir comment gérer un enfant qui est déjà dans cet état-là de dégradation. Souvent, nous parents, on prend du temps à comprendre que l'enfant est en train de dégrader. On s'en prend d'abord à l'enfant lui-même, puis à l'éducateur, sans oublier de se concentrer. C'est un problème sérieux. Il est nécessaire qu'on puisse taper fort et insister sur la vigilance de nos parents.
Très bien. L'amour parental peut réparer les défaillances, même les traumatismes subis par l'enfant. Si le couple parental se recadre, met les points sur les i, arrange ce qui n'allait pas, eh bien, on doit aimer l'enfant avec ces deux mondes, sous ces deux mondes-là. L'amour inconditionnel de la mère, l'amour conditionnel du père. Vous avez compris?
Oui.
Donc, si déjà l'enfant a des problèmes, avec les enfants, même si vous allez chez un psychologue, il va vous dire que non, moi je veux faire mon travail, mais vous devez m'aider pour que l'enfant recouvre sa santé. Vous devez m'aider par un style de vie au sein de la famille qui aide l'enfant à vivre l'expérience de l'amour. Une mère qui aime, un père qui aime, chacun de sa manière.
Gloire Kumala, je connais un frère de l'église qui a grandi dans un milieu où il était pris comme un ange. À ce que je sache, il devait y avoir de l'impact négatif sur la psychologie. Bien au contraire, il était toujours lauréat à l'école. Et il a développé une intelligence relationnelle que son absence parle beaucoup.
Ouais.
Considéré comme un ange, c'est pas étonnant qu'il puisse briller peut-être. Ça peut aussi, lorsqu'on gâte l'enfant, on exagère un peu.
C'est lui qui fait ses diagnostics. Vous avez compris?
Tout à fait.
C'est lui qui fait ses diagnostics. Mais nous faisons quoi? Nous disons quoi? Les témoignages viennent de qui? Quand cela ne tient, nous avons dit que la famille n'est pas le seul facteur. Il est indispensable, mais il n'est pas. La famille peut bien fonctionner. Et si, nous l'avons dit l'autre fois, non, les facteurs d'inadaptation. Et si l'enseignant n'applique pas une bonne pédagogie, vous faites quoi? Donc la famille peut avoir des défaillances et l'enseignant va réparer. L'école va réparer. Il y a des enfants, j'ai des témoignages, des enfants qui se sentent à leur aise à l'école plutôt qu'en famille.
Oui.
J'ai eu le témoin d'une jeune dame qui disait, j'ai tellement souffert dans ma famille, si bien que quand sonnait l'heure du retour à la maison, je pleurais. Et je faisais de mon mieux pour arriver le plus tard possible à la maison. Si je marche normalement 15 minutes après que j'étais à la maison, je mettais parfois 2 heures, vous vous rendez compte. Donc, on est mieux ailleurs que chez soi. Ça peut arriver.
Voilà, c'est la fin, Papa André. Un dernier mot.
Eh bien, comme je disais dans le petit exposé, si mon enfant échoue à l'école, j'ai tout intérêt à m'interroger sur l'équilibre psychosocial de ma famille avant d'aller engueuler, critiquer l'enseignant ou d'imposer des punitions à l'enfant. Peut-être l'enfant n'y est pour rien, c'est l'organisation, le style de vie de la famille qui fait que l'enfant échoue à l'école. Nous vous remercions beaucoup. Pour qui veut appeler, on peut faire le 082 20 029 18. 082 20 029 18. Merci beaucoup.
Merci, Papa André Tandala, pour le sujet du jour. Merci à vous, auditeurs, auditrices de Radio Maria, comme toujours, d'avoir été nombreux à participer à travers vos questions. Merci aussi à Radis qui a assuré la technique. Merci, restez-nous fidèles.
Donner sa vie,
donner ensemble,
choisir la vie,
choisir ensemble,
aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde, payer de soi,
payer ensemble,
risquer de soi,
risquer ensemble,
chercher en soi,
chercher ensemble,
payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde.